France Culture.
À voix nue, épisode 2, la grande aventure humanitaire. Bonjour Jean-François Corti.
Bonjour.
Parce que malgré tout, c'est une grande aventure, l'aventure humanitaire. On va parler du terrain aujourd'hui et peut-être du terrain international, bien que vous ayez commencé par un terrain français avec Médecins du Monde. À la fin de vos études de médecine, vous avez fait, je crois, un stage bénévole dans un centre de santé avant de rejoindre Médecins Sans Frontières en 2000, c'est ça ?
Absolument.
Alors comment ça s'est fait, cette rencontre avec Médecins Sans Frontières, après avoir été à Médecins du Monde ?
Alors ça s'est fait naturellement à l'antenne toulousaine de Médecins Sans Frontières. Chaque mois, il y avait une forme de conférence où des acteurs de terrain revenaient de leur mission et racontaient un petit peu ce qu'ils avaient vécu. Et donc, je commençais à rencontrer des acteurs de l'association de Médecins Sans Frontières. Et puis, dès que j'ai pu avoir ma licence de remplacement, dès que j'ai pu exercer la médecine, on va dire, seul dans un cabinet et de répondre aux critères nécessaires, eh bien, j'ai tout de suite postulé à l'international chez Médecins Sans Frontières. Et donc, j'ai à partir de là, j'ai enchaîné quelques missions dites d'urgence, médecins d'urgence, sur des zones de conflit essentiellement. Et ma première mission était en Érythrée. Donc dans les années 2000.
Qui était en guerre contre l'Éthiopie.
Absolument.
Mais juste un mot avant qu'on parte en Érythrée ensemble, Jean-François Corti, quand vous arrivez à MSF, donc au début des années 2000, l'aide humanitaire, elle est quand même au cœur de discussions, de débats même, éthiques, politiques, sur les interventions, sur ce que doivent être les missions de terrain, sur l'instrumentalisation possible politiquement. Est-ce que vous êtes au fait de tout ça ? Est-ce que vous êtes au courant ? Est-ce que vous vous intéressez à ça ? Dans quel état d'esprit vous abordez les premiers terrains ? Est-ce que vous êtes formé ? Est-ce que vous êtes préparé ?
J'ai pas mal lu. J'ai déjà fait une maîtrise de sciences politiques quand je pars avec MSF. Mais je suis pas encore entré dans l'anthropologie politique. Ça arrivera après. Mais donc, j'ai pas mal lu d'ouvrages, notamment de Ronny Broman, de différents acteurs qui ont pu écrire, Bernard Ours ou Jean-Christophe Ruffin et d'autres chercheurs qui ont écrit sur l'action humanitaire, sur les enjeux politiques. Donc, j'ai une base théorique, mais je ne connais rien de la vie, on va dire. Et je demande que ça, de vivre des expériences fortes. Je sais bien que il y a différents sujets qui traversent les questions humanitaires. Vous l'avez évoqué autour du risque néocolonial que peut représenter l'action humanitaire, autour des enjeux d'instrumentalisation politique, autour de toutes ces questions qui sont au cœur des débats des acteurs assez aguerris. Moi, je suis pas encore dans tout ça. J'ai ces notions-là, mais j'ai surtout envie de vivre pleinement l'aventure. Et vivre pleinement l'aventure, c'est de mettre à l'épreuve ce que j'ai pu lire, mais c'est surtout vivre aussi. Et l'action humanitaire, c'est d'abord, certes, aider des gens, dans le contexte où il me semble la nécessité d'avoir intégré qu'est-ce que le rapport à l'autre, qu'est-ce qu'est le don et le contre-don. Mais c'est aussi vivre, c'est rencontrer des gens, c'est avoir des histoires fortes d'amitié, parfois d'amour. C'est aussi dans l'expatriation créer les conditions, de savoir comment on vit dans des environnements qui sont pas toujours faciles, qui sont souvent dangereux. On découvre la peur. C'est aussi le moment où on se rend compte des limites des organisations à ce moment-là, à cette époque-là. Les organisations humanitaires étaient pas du tout briefées sur la question du soutien psychologique aux équipes. Si vous exprimiez la moindre peur sur les terrains qui était en rupture un peu avec l'image du médecin cow-boy, ben vous n'étiez pas forcément toujours bien considéré. Donc il y a ce culte encore dans les années 2000 de la figure du médecin blanc, French doctor, avec tout ce qu'il y a de bon, mais tout ce qu'il y a aussi de pas bon en termes de représentation déplacée. Donc moi, j'ai envie de
C'est avec
de
tout
vivre.
Ça que vous arrivez en Érythrée.
Absolument.
Qui est donc en guerre contre l'Éthiopie à l'époque.
Ouais. On est en 2000, il y a eu plusieurs années de guerre et plusieurs épisodes belliqueux. Et on se retrouve sur la frontière avec l'Éthiopie. L'Éthiopie est occupant une bande de terre de 10 kilomètres en Érythrée, donc avec des milliers de déplacés. Et donc, je suis médecin de terrain, je suis encadré par une équipe. Donc, je gère rien en termes de relations politiques ou autres. Hein. Je suis vraiment là pour faire de la médecine, je dirais,
consultations dans une école reconvertie en dispensaire.
Absolument. Entre autres, dans des conditions difficiles, mais avec des moyens. Hein. Et là, il faut reconnaître aussi à MSF, mais aussi à MDM ou d'autres organisations, tout le travail logistique et toutes les performances logistiques, souvent d'ailleurs issues de l'expérience militaire, hein, de pouvoir avoir des hôpitaux de campagne, des cliniques mobiles, avec des médicaments. Enfin, il ne s'agit pas d'aller faire l'humanitaire avec un sac à dos et 3 cachets de Doliprane. Hein. On fait de la médecine, et la bonne médecine et la vraie médecine, si je peux me permettre. Et donc, je suis en situation d'exercer dans une médecine tropicale, qui n'est pas facile, mais qui me projette dans les fantasmes que j'ai de l'époque, qui sont tout à fait, je trouve, sereins, de l'humanitaire qui voyage, qui sauve des vies, dans des paysages fabuleux. Mais j'apprends beaucoup de choses. Évidemment, sur l'exercice clinique en tant que tel, la médecine tropicale, je sors de la fac, j'ai pas vu grand-chose, même si j'ai fait pas mal de stages cliniques. Et c'est vraiment des infirmiers érythréens qui m'apprennent à diagnostiquer une tuberculose extrapulmonaire, une diarrhée sanglante à Shigel. Bref, j'apprends la médecine tropicale. Et donc, voilà, c'est intéressant dans ces mises en situation de voir aussi nos schémas déconstruits dans le jeu d'acteurs dans le champ, si on parle de la santé. Moi, c'est les infirmiers et infirmières qui m'ont appris beaucoup de la médecine, donc je leur dois beaucoup. Et puis, quand on est aussi à l'étranger comme ça, dans les situations qu'on évoquait sur la frontière avec l'Éthiopie et l'Érythrée, on fait ce qu'on appelle des cliniques mobiles, des missions exploratoires. Donc, on discute avec les militaires qui administrent le territoire pour pouvoir se déplacer. On ne se déplace pas n'importe comment. Il faut négocier avec les gens qui administrent les territoires où vous intervenez. Ça vous met dans des situations d'être dans des actions mobiles avec... on partait la nuit avec des chameaux qui portaient le matériel, des ânes, on sur des flancs de montagne pour pas être snipé par les snipers éthiopiens. Donc, évidemment, on vit ça. Moi, je vis ça de manière extraordinaire, quoi. Je suis dans l'action, dans mes fantasmes, et je pense que c'est très bien. Et en même temps, j'apprends du rapport à la médecine, j'apprends de la manière de négocier, de discuter, et déjà avec une mise en tension, jusqu'à quel point on négocie avec tel ou tel acteur, jusqu'à quel point, et ça va être des sujets très éthiques qui vont venir bousculer les principes d'action humanitaire, jusqu'à quel point on négocie avec des acteurs considérés comme terroristes sur des territoires, jusqu'à quel point on négocie avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que vous, si je pense par exemple aux talibans en Afghanistan, jusqu'à quel point on négocie avec des tortionnaires, je pense par exemple à des régimes totalitaires comme le régime nord-coréen. Moi je ne suis pas encore dans ces configurations-là, je suis médecin de terrain, mais je suis amené à discuter avec des acteurs de proximité. Et d'ailleurs, ça crée des situations assez drôles, en tout cas de mon point de vue, où avec ma maîtrise de l'anglais qui était un peu limitée, je me mets à négocier à un moment donné avec un chef de guerre local, en négociant un certain nombre d'ânes et de mulets qu'on devait avoir pour pouvoir porter le matériel dans ces missions exploratoires. Et dans la discussion très sérieuse, j'étais en face de quelqu'un qui avait subi une chirurgie faciale. Il faut imaginer que dans la guerre qui opposait l'Éthiopie à l'Érythrée, c'était des guerres de tranchées, comme en 14-18, donc il y avait beaucoup de mutilés de la face, notamment, avec des programmes d'ailleurs chirurgicaux qui étaient assez importants. Mais je me négociais avec cette personne qui est imposante. Et dans mon anglais bancal, au lieu de lui dire How many donkeys you have, je dis How many junkies you have. Donc en gros, combien de drogués vous avez. Donc ça a créé une tension. Et puis après, rapidement, il s'est rendu compte que j'étais juste un peu nul en anglais. Et tout le monde s'est détendu. Donc, il y a toutes ces expériences de vie. J'ai pas non plus, j'ai pas forcément l'habitude de m'étendre sur le détail de ces opérations, j'ai pas envie de faire celui qui revient du terrain et qui raconte sa vie. Mais il y a quelques éléments comme ça qui marquent, et surtout ce qui marque aussi, je pense, de manière un peu plus globale dans ces histoires de vie, c'est on est dans l'action au fin fond du bush sur la frontière que je vous évoquais entre l'Éthiopie et l'Érythrée. On dort dehors, on est entouré de militaires, de déplacés, les conditions sont difficiles. Voilà, et 3 jours après, on peut aller discuter avec l'ambassadeur à Asmara, dans un environnement feutré, avec avec du chocolat et du thé. Y a plein, voilà, des représentations qui sont totalement déplacées. Et ce que j'aimais bien aussi dans cette perspective de l'expatriation, c'est que ce soit d'ailleurs, alors pour le coup en Érythrée, au Niger ou n'importe où ailleurs, c'est qu'on a, on a un regard différent du pays d'où on vient, notamment dans la manière de pouvoir lire la presse internationale. On ne lit plus forcément les mêmes journaux, on n'a pas forcément le même canal d'information. Et donc, je trouve que c'est très enrichissant aussi pour le jeune adulte que j'étais à l'époque, autour de 25-30 ans, de pouvoir avoir un regard critique, quand je dis critique, c'est constructif, de mon pays, donc la France, au travers de ce qu'on pouvait en dire les autres, les journaux, les différents acteurs, les collègues soignants que je pouvais rencontrer. Et donc ça, c'est très enrichissant. De ce point de vue-là, l'expatriation est très enrichissante.
Après, Jean-François Corti, c'était première expérience en Érythrée. La deuxième mission, ça a été l'Afghanistan en 2001, dans un contexte très différent. Et à vrai dire, dans ces missions qui ont duré 8 ans, hein, pour Médecins Sans Frontières, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu le Niger, il y a eu l'Iran. À chaque fois, des missions assez longues, déjà, il faut le dire. Et puis à chaque fois, dans des contextes complètement différents qui vous ont peut-être permis d'abord de travailler sur des terrains qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, avec des personnes, avec des cultures très différentes, dans des langues différentes, mais aussi d'apprendre des choses par rapport à ce qu'est l'ONG, à ce que doit être l'aide humanitaire, le terrain par rapport à ce que vous aviez appris théoriquement. Quand vous êtes rentré de ces 8 ans de mission, est-ce que vous vous souvenez ce que vous vous êtes dit que vous aviez appris le plus ou est-ce que vous étiez vraiment complètement différente quand vous étiez partie ?
D'abord, sur le retour, je veux casser une certaine représentation. J'ai beaucoup vécu des moments extraordinaires. Je suis parti plusieurs années. Le retour, souvent, c'est difficile. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à rentrer. Souvent, on n'est pas forcément compris. On a envie de raconter des histoires, les histoires qu'on a vécues sur le terrain, mais quand on les raconte, on n'a pas l'impression que les gens nous comprennent. Enfin, c'est difficile de rentrer. C'est difficile et ça se prépare. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la question du soutien psychologique des acteurs humanitaires. Il est fondamental aujourd'hui dans la gestion des risques psychosociaux des organisations et l'exigence qu'elles ont à avoir vis-à-vis de leurs propres équipes, d'ailleurs qu'elles soient staff local, c'est-à-dire les équipes qu'on embauche dans les pays dans lesquels on travaille, qu'on soit des expatriés ou qu'on soit d'ailleurs bénévoles ou autres. Juste pour dire que le retour, c'était pas forcément facile d'un point de vue personnel parce que voilà, on se retrouve décalé et en même temps on a appris beaucoup de choses. Donc évidemment, pour aller dans le sens de ce que vous évoquiez, évidemment que j'ai appris beaucoup de choses, évidemment que j'étais enchanté. Et en même temps, mon histoire ne s'arrêtait pas là, puisque je reviens travailler au siège de Médecins Sans Frontières, où là, j'ai une autre position. Je me retrouve être en situation à la fois de vivre une situation d'un siège avec tout ce que ça implique, le siège d'une grosse ONG, de rapports de jeu de pouvoir entre les différents acteurs du siège.
Siège du Médecin du Monde,
Médecins Sans Frontières.
Ah, Médecins Sans Frontières,
ouais,
d'abord.
D'abord, oui, où j'ai travaillé 3 ans à Médecins Sans Frontières. Comme responsable de programme, c'est-à-dire qu'on coordonne plusieurs projets dans plusieurs pays, mais depuis Paris, on s'y rend régulièrement pour appuyer les équipes, mais on ne fait plus de missions de long cours comme j'ai pu le faire avant. Évidemment, l'expérience du terrain, je l'ai confrontée aux différents principes qui avaient bercé mon approche théorique. Et j'ai pas choisi pour rien l'action humanitaire, MSF et Médecins du Monde, j'ai pas choisi cette organisation pour rien. Et je fais référence à notre premier épisode et ce qu'on a discuté précédemment, où j'avais l'envie de vivre quelque chose sur la base d'un passeport qui est la médecine pour pouvoir m'inscrire dans le réel, être dans l'action et dans l'altérité solidaire, mais m'engager dans la lutte contre les inégalités dans un environnement qui me donne les moyens de faire des actions de qualité, mais qui me donne aussi les moyens de pouvoir documenter des réalités, faire des rapports et donc construire des éléments rationnels qui vont ensuite permettre de faire ce qu'on appelle du plaidoyer, de la prise de parole, justement pour rentrer dans le champ du politique, dans le champ de la lutte contre les inégalités au travers de la remise en question, enfin du débat sur les politiques en matière de droit international, d'accès aux soins pour tous et autres. Et j'ai vraiment choisi ces ONG-là parce que c'est ce qu'elles me proposaient. Une action concrète, des moyens et pas voilà, de fausses opérations, des vraies opérations médicales, des vraies actions et toute une logistique pour le faire. Et c'est vraiment un métier, hein, la logistique en action humanitaire, pour pouvoir permettre à des soignants de faire leur métier, mais une des organisations qui me permettait aussi, à la différence d'un parti politique et à la différence d'un syndicat, d'être dans le champ du politique, sur la base d'une légitimité de terrain, pour aller me frotter dans le champ des savoirs politiques et du combat politique. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces associations. Et si on revient rapidement à mon histoire personnelle et aux dynamiques d'endoculturation et d'acculturation, moi, j'ai été extrêmement guidé par la notion de libre arbitre, de liberté, que, d'une certaine manière, alors je tire peut-être un peu le trait, mais que le protestantisme et les huguenots m'ont donné, en termes de culture, même si je suis pas pratiquant ou autre, ces valeurs-là, je sais d'où elles viennent. Pour moi, c'était important aussi d'être dans une action où je puisse répondre à une histoire personnelle. La lutte contre les inégalités, la lutte contre les stigmatisations de minorités, c'est quelque chose qui m'a porté. Alors, j'en ai pas vraiment souffert, moi, personnellement, mais je sais que mes parents, par exemple, un catho, l'autre protestante, ben, ils ont eu des problèmes pour se marier, ils me racontaient leurs histoires. C'était pas évident, les années 50, même encore 1950, en France, de pouvoir se marier sans être embêté parce que on n'était pas de la même religion. Mon arrière-grand-mère me disait régulièrement, tu sais, au début du XXe siècle, il se disait dans les discours populaires sale juif, mais c'était aussi sale protestant. Cette idée de la minorité qui a souffert et qui se bat pour son émancipation, je sais qu'au fond de moi, c'est quelque chose qui m'a porté et qui me porte. Encore une fois, sans revendiquer une pratique ou un attachement viscéral au quotidien, à une église ou à un temple ou autre. Mais je sais que cette idée du libre arbitre que le protestantisme m'a apporté, c'est quelque chose qui guide mon engagement, que des associations comme Médecins du Monde et MSF laïques peuvent me permettre de porter en étant moi-même.
Encore un mot, Jean-François Cortier, pour clore le chapitre Médecins sans frontières et ses années, ses premières années de terrain. Dans certains pays, vous étiez la seule ONG. Dans d'autres pays, vous étiez plusieurs. Certains conflits étaient très médiatisés, d'autres quasi oubliés des médias occidentaux et européens, des pays dans lesquels vous êtes, vous, habituellement. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de travailler sur des zones de conflits oubliées ou médiatisées, de travailler seul ONG ou à plusieurs? Est-ce que vous arrivez à en tirer un grand trait, disons?
Alors, c'est vrai que les expériences de terrain en Afghanistan, au Niger, m'ont permis de réaliser différents concepts, notamment la question du militaro-humanitaire, ce qu'on appelle cette confusion militaro-humanitaire. Lorsque j'arrive en Afghanistan au lendemain des attentats de septembre aux États-Unis 2001, du 11 septembre, les Américains décident de faire la peau aux talibans, Ben Laden envahissent l'Afghanistan. Les programmes de MSF ferment un certain temps et début 2002, je suis envoyé pour aller réouvrir un programme dans le sud de l'Afghanistan, aux zones Pashtun, notamment aux zones talibans. Et c'est vrai que là, je suis confronté, depuis le Pakistan, pour ensuite rejoindre Kaboul. Je me retrouve dans des vols, alors des Nations Unies, hein, c'est des avions qui sont spécifiquement affrétés pour les humanitaires, les acteurs des Nations Unies et autres. Ben, je me retrouve avec des humanitaires, en tout cas, qui prétendent l'être, qui ont plus le profil de GI et de commandos que d'acteurs humanitaires basiques. Et de fait, on a vu en Afghanistan une confusion des genres qui a vraiment pris corps sur la dimension de ce qu'on appelle le militaro-humanitaire, à savoir que dans pas mal de pratiques de terrain, il y avait des acteurs qui ce qu'on appelle les PRT, les Provincial Reconstruction Team, qui étaient avant tout des militaires, notamment américains, mais qui étaient dans des logiques d'assistance contre-information. C'est-à-dire qu'ils arrivaient dans certains certains villages, ils donnaient de la bouffe, mais en échange d'avoir des informations dans le cadre d'une campagne dite de pacification, je reprends leur terme, contre les talibans. Donc vous réalisez combien... c'est pour ça que la typologie des acteurs est importante à avoir en tête dans la géopolitique de l'aide. Il y a les États, il y a les ONG. Au sein même des ONG, il y a différents acteurs. Il y en a qui sont très indépendants, d'autres qui sont des opérateurs parce qu'ils sont essentiellement financés par les États. Vous avez différents types d'acteurs. Et c'est important à avoir ça en tête. Et moi, je le vois au travers notamment de cette expérience en Afghanistan où il y a des militaires qui font de l'humanitaire à vocation de renseignement. Et en fait, c'est problématique parce que ça restreint l'espace interventionnel des humanitaires indépendants que sont MSF, MDM et d'autres, qui, elles, revendiquent l'impartialité, l'indépendance, la neutralité. On y reviendra parce que tout est, pour moi, c'est pas clair et je pense pas qu'on soit neutre. Mais en tout cas, on n'est pas partisans, on n'est pas pour les uns, pour les autres, on est des deux côtés de la ligne de front. Et en fait, le fait qu'il y ait des militaires qui disent faire de l'humanitaire, ça noie un peu tout ça, ça rend les contours de l'aide floue et ça rend tout le monde suspect. Et donc ça limite nos capacités d'intervention parce qu'on devient suspect même si on revendique le fait de n'être attaché à aucun État, à aucun intérêt, que notre action relève du désintéressement total. L'aide des États n'est jamais désintéressée. L'aide des ONG, en théorie, est désintéressée, est impartiale, est indépendante. Donc voilà, cette confusion des genres, je la vis en Afghanistan. Et puis l'autre chose que j'observe en Afghanistan, qui renvoie à ce que vous évoquez sur la notion de crise oubliée, notamment. En fait, souvent, les crises oubliées, elles sont pas oubliées par celles qui les vivent, elles sont oubliées par les bailleurs internationaux qui financent des organisations qui vont intervenir, notamment dans des zones de conflit. Je suis en Afghanistan. Bon, c'est la guerre. Il y a des années de guerre qui ont passé, mais il y a un système de santé qui tient. Il y a des déplacements de population. Bon, c'est vraiment pas une vie de très très haut niveau en termes de confort économique, mais voilà, il n'y a pas forcément des gens qui meurent et des gamins qui meurent comme ça du jour au lendemain dans des états pas possibles, même si les conditions de vie sont difficiles. Et puis, pourtant, il y a une hypermédiatisation, il y a énormément de moyens, notamment de la communauté internationale, qui accompagne cette campagne militaire internationale portée par les Américains. Et on voit comment déjà, et je vois comment l'aide humanitaire, une certaine aide humanitaire, est un outil de soft power des États parce qu'elle vient faire un service après-vente. Et on l'a vu dans la première guerre d'Irak, quand Colin Powell, le secrétaire américain, parle de la notion d'embedded. C'est-à-dire il évoque le fait qu'on va envahir l'Irak et que tous ceux qui sont avec nous vont nous accompagner, dont les ONG, et vont faire le service après-vente de la guerre. Et donc, on voit cette idée de l'instrumentalisation de l'action humanitaire par les États pour défendre leur rhétorique de guerre juste ou autre. Et ça nous pose un problème. En tout cas, moi, ça me pose un problème. Je ne fais pas de l'humanitaire pour être instrumentalisé et pour me retrouver dans des jeux politiques que j'ai fui en n'allant pas dans des partis politiques, en ne me projetant pas dans des situations de vouloir gérer le pouvoir en tant que tel. Et donc, ça dénature, la question du mitard humanitaire dénature l'aide des humanitaires. Et simplement pour finir sur cette partie-là, énormément de moyens en Afghanistan, même si les besoins sont importants, mais il y a énormément de moyens, énormément de médiatisation. Deux mois, je reste 3-4 mois, je pars ensuite au Niger. Au Niger, début 2002, il n'y a aucun média, il y a très peu de bailleurs institutionnels. MSF peut y travailler parce qu'ils ont des fonds propres, issus de la générosité publique, ils n'attendent pas les financements des États. Et là, je me retrouve face à des dizaines, des milliers d'enfants qui meurent, plusieurs enfants chaque jour qui meurent de faim dans le sud du Niger, à la frontière du Nigeria, parce qu'on est dans une période non pas de guerre, mais on est dans un pays excessivement pauvre, où il y a une période de soudure, c'est-à-dire la faim, de la possibilité d'utiliser les stocks de mil, la nourriture qu'on a, avant la période des récoltes. Et souvent, quand il y a un tuilage qui se fait pas, eh bien, il y a un manque de nourriture. Et c'est des milliers d'enfants qui meurent de malnutrition chaque année. Moi, tous les jours, j'en vois dans mon centre nutritionnel que je n'arrive pas à réanimer. Je suis dans une logique de médecine de tri, à savoir lesquels je dois prendre en charge ou pas, quels sont ceux qui vont mériter d'être sondés avec des sondes gastriques, mais qui vont mériter d'avoir toute une infrastructure médicale qui se met en place autour d'eux. Et là, là, pour le coup, il y a zéro média, il y a zéro intérêt politique, et on nous explique qu'en fait, c'est une urgence chronique, et ouais, c'est du développement, en gros. Et là, on voit bien, et j'intègre bien, la complexité de la définition de ce qu'est l'action humanitaire, de ce qu'est le développement, de ce qui les relie, et puis surtout la notion de crise oubliée, et du fait que l'aide pour les États est un outil de soft power au service d'agendas politiques qui concordent avec des agendas évidemment souvent médiatiques, et que voilà, moi j'ai pas envie d'être pris là-dedans, et nos organisations, et c'est pour ça que je me retrouve pleinement dans MDM et aussi chez MSF où j'étais au conseil d'administration il y a encore quelques années, parce que ce sont les organisations qui sont censées être en dehors de ces agendas, dans une logique de désintéressement qui doit nous porter, et c'est ce qui me porte moi dans ces organisations.
Bernard Kouchner, avec d'autres, a fondé Médecins sans frontières en 1971, enfin au début des années 70, et Médecins du Monde en 1980. C'est quoi la différence ?
Alors, ils sont plusieurs médecins, et d'ailleurs, il crée MSF aussi avec des journalistes, avec la revue Tonus à l'époque. Et on voit bien déjà l'idée d'associer, et c'est ce qui est nouveau dans le sans-frontiérisme et ce qu'apportent ceux qui ont créé MSF. C'est cette idée, après le conflit au Biafra, au Nigeria, de dire, voilà, le droit international, c'est une chose. Les Croix-Rouges et Croissants-Rouges sont des acteurs avec lesquels ils ont travaillé, souvent d'ailleurs avant. Il y a aussi des missionnaires et la place de des missionnaires est importante aussi dans l'action humanitaire, on pourra y revenir, mais ils avaient le devoir de ne pas témoigner en étant engagés à la Croix-Rouge. Et ce qu'amène Kouchner et cette nouvelle génération de journalistes, c'est de dire, on est dans un contexte où on peut prendre l'avion, aller sur n'importe quelle crise. Il y a cette idée de développement. On est dans cette idée, de, y compris en France, de la médecine qui sort de l'hôpital. C'est la création des SAMU chez nous. On est dans cette idée de l'émergence de cette notion d'opinion publique qui est issue de travail de sociologie, notamment qui arrive des États-Unis, où cette notion d'opinion publique comme est un levier d'influence des acteurs politiques et donc un levier de démocratie. Et ils font cette synthèse-là, ces médecins, et il se dit, voilà, nous on voit qu'au Nigeria, c'est potentiellement une guerre avec un droit international qui ne protège pas les civils, pas suffisamment, on nous demande de rien dire, ben nous non, on veut soigner, mais on veut pouvoir témoigner. Et c'est ça l'originalité de ce qu'amène le sans-frontiérisme de MSF, et ensuite de la myriade des ONG du Nord comme du Sud qui vont émerger, dont Médecins du Monde dans les années 80, c'est cette possibilité de rentrer dans la dimension du plaidoyer, dans le champ du politique, sans être forcément partisan. Voilà. Mais évidemment, ça c'est la grande histoire, et c'est ce qui m'intéresse. Mais cette histoire est parcourue d'histoires personnelles aussi, sur lesquelles ce n'est pas forcément nécessaire de rentrer.
Non, mais entre MSF et MDM, il y a quoi comme différence de fondamentale ?
Fondamentalement, il n'y en a aucune.
Il n'y en a pas.
Il y a un engagement profond pour défendre les droits fondamentaux, fondé sur des principes d'impartialité, d'indépendance, de désintéressement, avec l'idée l'idée philosophique de l'action humanitaire, qui est celle de considérer que l'existence peut être faite d'autre chose que de souffrance, et donc autant l'atténuer en étant notamment au travers de l'action médicale, mais avec cette idée aussi, moi, qui me porte, c'est de lien entre les peuples, au travers notamment des expatriations. Mais je dis ça dès lors qu'on a considéré, qu'on a réglé le problème du risque néocolonial au travers de l'expatriation. Et quand je dis ça, on sait très bien le risque néocolonial qu'implique d'être expatrié. Et on a beaucoup travaillé, nos organisations, notamment Médecins du Monde, sur le fait d'essayer d'atténuer cela, et notamment autour de la question de la répartition du pouvoir dans nos missions sur les terrains. C'est pas l'expatrié qui arrive et explique la vie à tout le monde. Non, on travaille selon des approches communautaires, donc avec les personnes concernées par des problématiques de santé sur lesquelles on va les accompagner. On co-construit les programmes avec eux, on travaille avec les associations locales, et on a des équipes locales qui sont aussi dans la gestion de la gouvernance de nos projets. Donc, cette idée d'expatriation, cette idée de lutte contre les inégalités, cette idée fondée sur l'impartialité et l'indépendance, c'est ce qui rejoint MSF, MDM, dans lequel je me retrouve.
En tout cas, Jean-François Corti, on a parlé de la dimension internationale et des interventions sur le terrain en dehors du terrain français, mais Médecins du Monde intervient également sur le territoire national, et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, en parlant notamment de l'aide aux migrants en France. Merci.
Merci.
Et à demain. C'était À Voix Nue avec Jean-François Corti. Réalisation Charlotte Roux, prise de son Raymond Albouy, chargé de programme à voix nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.